One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, quatrième et dernière émission de février, et allez, on se fait une petite blind test à nouveau, ça vous va?
Allez
oui.
Ghislain, Paola, Ariane.
Oui Philippe.
Ouais, cette semaine on a perdu Annie, qu'est-ce qu'elle est devenue, vous avez de ses nouvelles?
Oh, elle rentre en maison de retraite, c'est clair.
On l'embrasse. Et donc, ouais, émission blind test, puisque c'est la dernière de notre mois sur la transmission. Et bah, deuxième émission plaisir, puisqu'on avait commencé par une émission de ce type-là, où en fait les uns les autres on se fait découvrir des textes qui ont été marquants pour nous. Tu commences, Ghislain ?
Allez, d'accord. Accrochez-vous à vos fauteuils.
À ce point-là ?
Ah bah tu vas voir. Donc vous m'interrompez quand vous voulez, même si vous ne reconnaissez pas, sinon je vous lis le bouquin en entier.
Maintenant tu commences au début, ça je vois d'ici, ça va.
Wasag, Jean. Son membre que le foutre ébranle, force le poing du maître chien. Ses mains sues, plaquées au zinc. Le maquereau pisse dans le chiotte ouvert. La giclée éveille le blond. Il se redresse, extrait son membre gluant d'entre les fesses du pied beau, se met debout, enjambe le corps du putain, pose son pied sur le coccyx ensanglanté, réajuste son pantalon, étire ses bras, bâille. Un muscle du coccyx frémit sous son pied. Son sexe rebondit. Le brin ronfle, la tête tournée vers le mur. Le maître chien refoule Wasag vers l'extrémité du comptoir. Leurs pieds heurtent le corps du crépu qui, yeux clos, geignant, lèche le talon poudré de foutre sec du putain. Le maître chien pousse Wasag contre le chambranle du couloir, contre le blond, lequel l'enserre entre ses bras, son pied foyant saccader le gras des fesses du pied beau vitulé, l'encule, criant d'un coup de rein. Son membre arqué, glissant sur le foutre frais du maître chien, prolifère dans le cul de Wasag. Le blond, crispé, sparadrap se décollant de son ventre durci suant, se brandille, incliné sur la croupe du putain que le maître chien mord aux lèvres. Wasag, un rire rauque, gonflant ses joues, faufile ses poignets, ses avant-bras, sous les aisselles en suée du maître chien, mêle ses doigts sur le dos plissé, palpe les clavicules. Après l'enculé, Wasag s'agenouille, enlace les jambes des adolescents redressés, enfourne dans sa bouche les deux sexes gluants, les suce, eux, lèvres abouchées, gênent, se câlinent les hanches, la gorge. Paupières abaissées, Wasag, du bout des doigts, tambourine les deux sexes durcissant entre ses lèvres. Le maître chien laisse tomber sa main sur le membre du blond, entrelace ses doigts secs à ceux, moites, du putain. Son auriculaire frôle l'épiderme, marqué d'empreintes de crocs du sexe du blond. Sa salive coule dans la bouche du blond, ses lèvres se déplacent et s'ouvrent sur l'oreille, ses narines frôlant, humant les boucles des tempes. Mes chiens, mes chiennes, au prince de coucou ont mordu, de nuit, ton membre que voici au mien mêlé en flutuant entre ses lèvres, sous ses doigts animaux, dans ce lit qui travaille le vent, le pétrole, le gaz, les ruines, parmi les lauriers roses, les roseaux déchiquetés par la mitraille, tes pieds enflés foulant le sable fossilifère, tu cours, blond Baïl, tout enveloppé du parfum du rebelle. Vénus te précède, mort, ballotté entre tes genoux, ta braguette, déchire la toile, crochette ton sexe. La sueur noircit la chemise collée à ton dos, dressée sur le bord de la falaise, les supplétifs halètent, grondent. À leurs oreilles bondées de gypse, les boucles teintent dans l'ozone bleue. Le hurlement étouffé refoule le sang contre tes dents. La crosse broie le crâne de Vénus. Le poignard perce ses yeux durcis par la colère. Affaissée, elle vibre. Toutes, des lambeaux de ton sgag en s'enroulent, saccadées à ses dents. Le membre du blond se rétracte entre les lèvres de Vasag. Le putain câline les deux sexes avec ses doigts, tous, en robe, d'un même caillot de morve expulsé hors de sa gorge, les deux glands enroulés dans sa langue, caressent la cuisse hérissée du blond, empoignent en les mêlant leurs boules, les roulent sous son menton.
Au secours! Je veux partir!
C'est ça qui est plus loin de la porte!
C'est cette horreur!
Et moi, encore, je pouvais.
Là, qu'est-ce que c'est cette horreur?
C'est pas non, le
attends,
pire!
Il a trouvé Philippe, laisse Philippe.
Oui,
Pierre.
C'est Eden, 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 de Pierre Guyotat.
C'est Pierre Guyotat, oui, ah. Bien sûr. Et c'est pas le pire! C'est pas le pire, Eden Eden. Faut lire Prostitution, parce que Prostitution, il y a toute une réinvention de langage, mais il était beaucoup plus difficile à lire. Et donc,
enfin,
j'ai
déjà
pas
là,
le temps de le
c'est
travailler.
Pas mal. Hein. Bravo pour la performance, parce que c'est extrêmement. Enfin, ouais, c'est très difficile à lire. Alors, faire cette expérience du texte comme ça lu. Parce que moi, effectivement, c'est un bouquin qui m'est arrivé dans les mains à un moment. Je sais pas. Plus comment, honnêtement, je m'en souviens pas. Et le lire chez soi, c'est compliqué, c'est une expérience
c'est
compliquée.
C'est très compliqué, parce que c'est tout un travail de langage, d'autant plus en prostitution. Donc. Et moi, en fait, j'ai connu en le travaillant en théâtre.
Ouais.
En le travaillant en théâtre et en voyant un spectacle que Monique Grégo avait mis en scène à Avignon, et sur des textes de Guyotat. Et c'était assez extraordinaire parce que cette langue qui est incompréhensible quand tu la lis à l'oral, elle te raconte des milliers de choses. Mmh. Et c'est une très belle langue. Et puis il y a cet exergue qui est « Mon royaume n'est pas de ce monde » qui moi me convient tout à fait.
Par contre, effectivement, c'est une expérience qui peut être éprouvante.
Un peu. Et alors, qui c'est ce Guyotat? Dis-moi un mot.
En fait, je ne connais pas grand-chose de Pierre Guyotat.
Pierre Guyotat, enfin, moi non plus, je ne connais pas grand-chose. Je sais simplement qu'il est arrivé, il a surgi dans la littérature violemment, brutalement. Je crois qu'un de ses premiers bouquins, c'est « Tombeau pour... » pour je sais plus combien de soldats, oui. mais en fait on dans l'histoire de l'écriture en France, c'est on va dire un héritier d'écriture radicale comme celle de Genet, évidemment. Mmh. mais sauf qu'il y a un travail effectivement qui est très 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 important sur la structure de la langue. On le voit hein, dans l'extrait que tu as, enfin on l'entend plutôt dans l'extrait que tu nous as lu. Et alors c'est un texte qui fait 220 pages quoi. Et effectivement il faut c'est une voix qu'il faut entendre. Je pense que il faut lire ce bouquin à voix haute, alors du début à la fin certainement pas, ou alors il y a des expériences, oui, tu t'en as parlé, théâtrales.
En spectacle, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que le texte que j'avais lu en première semaine était aussi un texte qui a été fait pour être dit.
Oui.
Et sinon, à partir de Pierre Guyotat, moi, je suis allé sur Georges Bataille aussi. On parlait, toi, des réseaux, de comment est-ce qu'on arrive là, et voilà, j'ai découvert Georges Bataille aussi en partant de Guyotat.
Paola, tu connaissais pas Pierre Guyotat?
Oh, de nom, mais j'avais jamais lu, non.
Ariane?
Quoi?
Est-ce que tu connaissais
moi
Pierre
pas connaître, moi pas savoir.
Et alors, qu'est-ce que ça a évoqué pour toi?
Ben, de l'entendre comme ça, ça m'a rappelé ta lecture d'un extrait du Corps lesbien de Monique Wittig. Tu vois, la crudité et le... Voilà, la sexualité très crue, très...
Brut.
Ouais. Bon, après, c'est pas du tout... Enfin, j'imaginais pas... tu vois, je me souviens très bien comment tu disais « La terre du jardin roule entre tes dents ». Et là, je voyais pas du tout un jardin autour, tu vois.
Ah non, bah non, c'est pas exactement le même cadre.
En position avancée, peut-être.
Voilà. C'est un peu plus glauque que l'univers de Guyotat.
Paola?
Oh, je suis toute esbody. Bon, alors je vais vous faire l'inverse, d'accord?
Oui, d'accord.
Chiche. Je vous fais exactement l'inverse.
On aime bien les...
Donc, oui.
Faire le grand écart à
bon,
SLP.
Bon, alors vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir, mais je l'ai choisi parce que dans l'histoire de la littérature lesbienne et gay en général, c'est le premier roman qui se finit bien.
Ah oui ?
Ah oui, historiquement. Alors, un tout petit extrait. Carole fut en retard d'un quart d'heure. Thérèse, assise à une table d'où elle pouvait surveiller les portes de verre, la vit enfin pousser une porte et sa tension se relâcha, avec une petite douleur morne. Carole portait le manteau de fourrure, les chaussures en daim noir qu'elle avait sur elle le jour où Thérèse l'avait vue pour la première fois. Mais aujourd'hui, une écharpe rouge rehaussait sa tête blonde. Elle vit son visage aminci se transformer sous le coup de la surprise avec un petit sourire. « Bonjour, » dit Thérèse. « Je ne t'ai même pas reconnue tout de suite. C'est gentil à toi de me voir. Ne dis pas ça. »« Est-ce que tu me détestes, Thérèse ?» demanda Carole. « Non. » Thérèse reconnut le parfum de Carole. Il était abstrait, étranger maintenant. « Comment pourrais-je te détester, Carole ?»« Tu pourrais. Tu m'as détesté sûrement. » Elle affirmait plus qu'elle ne demandait. « Détester ? Non. » Pas tout à fait, aurait-elle pu ajouter. Mais elle savait que les yeux de Carole lisaient sur son visage. « Et maintenant, tu es une grande personne, coiffée et habillée comme une grande personne. » Thérèse plongea dans le regard gris, plus sérieux maintenant, quelque peu mélancolique aussi, malgré le port de la tête fière et assurée. Puis, incapable de la sonder, elle baissa les yeux, car elle était toujours aussi belle, pensa-t-elle. « Tu sais, tu as l'air en grande forme, dit Carole. Tu es sortie de l'œuf tout à coup. Est-ce donc de t'éloigner de moi qui produit ce résultat ?»« Non. » Vivement Thérèse. L'expression employée par Carole la faisait penser à une naissance et cela l'embrassait. Oui, elle était née depuis qu'elle avait quitté Carole. « Je t'aime, » dit Carole. Thérèse ouvrit les yeux mais ne les leva pas. « Tu sais que tu n'éprouves pas la même chose pour moi, n'est-ce pas ?» Thérèse faillit démentir, mais le pouvait-elle ? Elle n'éprouvait plus la même chose. « Je ne sais pas, Carole. C'est pareil. » L'intonation de Carole était douce et ouverte, dans l'attente d'une confirmation, d'une dénégation. Thérèse contempla le pain dans l'assiette. Elle pensa à la fille de Carole. Elle avait reculé le moment d'en parler. « Tu as vu Rindy ?» Carole soupira. « Oui, dimanche dernier, pendant une heure. Elle pourra sans doute venir me voir quelques après-midi par an. J'ai perdu, complètement. Je croyais que tu avais dit quelques semaines par an. Il y a eu du nouveau depuis entre Arge et moi. J'ai refusé de faire tout un tas de promesses qu'il exigeait. Et la famille s'en est mêlée aussi. J'ai refusé de vivre selon la liste de préceptes imbéciles qu'ils avaient établis pour moi, même si cela voulait dire qu'ils protégeaient Rindy de rempart contre moi, comme si j'étais un monstre. En fait, je n'ai pas promis grand-chose au tribunal. J'ai refusé là aussi. Thérèse ne put s'empêcher de sourire. Elle était contente que Carole eût conservé sa fierté. On finit par surmonter les choses, dit Carole. Arge et moi vendons la maison. J'ai pris un appartement et un travail, figure-toi. Je vais être acheteuse pour un magasin de meubles. J'ai un bel appartement assez grand pour deux. J'espère que tu aimerais venir vivre avec moi, mais je suppose que tu ne veux pas. Le cœur de Thérèse bondit, comme au jour où Carole lui avait téléphoné au magasin. Quelque chose en elle répondait contre sa volonté, l'emplissait de joie et de fierté à la fois. Vivre avec Carole, il y avait eu un moment où cela était impossible, et néanmoins c'était ce qu'elle souhaitait le plus au monde. Vivre avec elle et partager tout avec elle, été, hiver, marcher ensemble, lire ensemble, voyager ensemble. Et elle se rappelait les jours où elle l'en voulait à Carole et imaginait que Carole le lui proposait, qu'elle répondait non. « Voudrais-tu ?» Carole la regarda. Thérèse sentit qu'elle était sur la corde raide. Le ressentiment avait disparu à présent. Il ne restait que la décision à prendre. Un fil ténu suspendu dans le vide et rien autour d'elle pour la pousser dans un sens ou dans l'autre. Mais d'un côté était Carole et de l'autre un grand point d'interrogation. D'un côté Carole et ce serait différent désormais parce que toutes deux étaient différentes. Ce serait un monde aussi inconnu que celui qui venait de disparaître. Seulement aujourd'hui, il n'y avait plus d'obstacle. Thérèse pensa au parfum de Carole qu'elle avait trouvé vide de sens tout à l'heure. Un vide à remplir, aurait dit Carole. « Voudrais-tu ? » dit Carole avec un sourire impatient. « Non, » dit Thérèse. « Non, je ne crois pas. » Bon, bah, tu vois, ça c'est un extrait...
De Carole et Thérèse de chez Ikea.
C'est Patricia Highsmith.
Tu as trouvé, Ariane.
Elle n'a pas arrêté de Carole. Dire le titre. Il y a Carole dans le titre, c'est facile.
Alors, le vrai titre, c'est Les eaux dérobées. Et puis ouais, ça a été transformé, je crois, lors d'une réédition. C'est un texte de 1952, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des romans gays et lesbiens, mais ils se finissaient systématiquement mal.
Hein, c'était un principe, il fallait que soit il se suicide, soit qu'il soit réprouvé, etc., etc. Donc c'est le premier roman, il faut lire le texte qu'elle a écrit avant et après, où elle dit que suite à ce bouquin, c'est son deuxième roman à elle. Hein. Mm-hmm. Elle est connue comme auteur de polar, grande auteur de polar, et son deuxième roman, ça a été ça. Elle l'a présenté à son éditeur qui l'a refusé.
Autobiographique, peut-être hein.
Non, mais elle, elle est lesbienne, oui, je pense que oui, elle est lesbienne, mais si elle n'a jamais fait, enfin bon, voilà.
Ça se passe dans les grands magasins, il y a aussi une espèce de... Moi, ce que j'ai retenu, en fait, de ce livre, c'est cette atmosphère des grands magasins et cette espèce d'antre d'une féminité apprêtée. Et le moment où elle se rencontre, moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est la première fois qu'on voit Carole.
Ouais.
Tu l'as vu.
Ses yeux et tout, c'est...
Tu l'as vu, toi, donc.
Et il y a eu un film, je crois que c'est un cinéaste français qui a fait un film de ça.
Ah, il y a une adaptation cinématographique.
Comment il s'appelle, pas Belleville non,
Melville.
Melville, oui. Il me semble que Melville l'a adapté au cinéma. Bon, voilà, donc c'est le premier, enfin, d'après ce que dit Patricia Smith dans son texte, elle dit que c'est suite à ce bouquin, elle a eu des milliers de lettres d'homo américains qui lui ont écrit, femmes et hommes, pour lui dire qu'enfin ils se reconnaissaient dans quelque chose et qu'elle les a mis en contact, elle leur donnait des conseils. Enfin, elle était complètement submergée par ce que ce livre à l'époque
a généré comme retour.
Voilà, et elle dit, c'est d'après ce qu'on dit, c'est le premier livre gay qui finissait bien. Voilà, je dirais ça aussi, ça fait partie des compagnons de route de lesbiennes de ma génération. Et...
Tu l'as découvert comment
aussi,
ce livre?
Je l'ai lu.
Par le polar.
Par
le polar, parce que Highsmith est quand même une grande maîtresse du polar. Mmh. Et donc j'ai lu pas mal de trucs d'elle. Et un jour je suis tombée là-dessus sans savoir ce que c'était. Et puis tiens, j'étais intriguée et tout à fait intéressée. Voilà.
D'accord.
Et c'était dans une édition où il y a une compilation avec 6 ou 7 de ses œuvres de polar. Mmh. Et c'est le dernier, il était présenté en dernière partie. Voilà. Et surtout le contexte sociologique de l'époque était intéressant, puisque le texte lui-même, qui est assez. Je dis c'est sympathique, ça tient la route, mais qui est un peu mièvre et un peu. Bon, voilà, c'est un peu dépassé.
Et Ariane, toi?
Moi, je l'ai eu comme conseil sur Amazon, et sur Amazon aussi, on peut acheter des livres d'occasion. Donc, j'ai eu d'occasion via Amazon. Voilà.
Et tu as validé ton panier.
Oui, il y en avait plein d'autres. J'ai dépensé beaucoup d'argent chez Amazon.
Allez, pause musicale et on revient pour 2 ou 3 derniers extraits.
Stop.
Big Ben.
Yes, c'est une spéciale dédicace pour Annie.
Qui vient de nous appeler, elle est folle, elle écoute la radio, elle adore ce titre.
C'est tout à fait le genre de musique Annie aime à s'éclater avec.
Donc ça c'était Taiga et c'est Sex O'Clock. J'enchaîne, c'est mon tour.
Allez,
ouais, parce que moi j'ai pas lu encore, donc...
Tu peux pas tout faire.
Deux protagonistes aussi, alors c'est pas Thérèse et Carole... C'est Pierre et Gérard, et c'est donc un...
Tout à coup, ça fait moins, je sais pas.
Ouais, bah, je vais lire, mais ouais, Gérard, j'y peux rien, voilà, c'est Pierre et Gérard. Et donc, le livre dont est extrait ce que je vais vous lire, c'est un double récit. Enfin, c'est, la structure, c'est deux récits qui se succèdent, le récit de chacun des protagonistes. Donc, premier récit, Pierre. Et moi, je vais vous lire l'extrait de le début du récit de Gérard. Après déjeuner, nous quittâmes tout de suite la maison. Nous passâmes par l'allée qui conduisait à la grange. Dès que nous fûmes assez loin pour qu'on ne pût nous voir d'une fenêtre, je pris Pierre par la nuque, lui renversai la tête sur mon épaule et lui baisai la bouche. Pierre est le plus beau des garçons. J'en fais ce que je veux. Lorsque je marche près de lui, je crois toujours marcher au flanc d'une armée victorieuse. Seul, il est 10 000 hommes, il en a l'assurance. Il est fait d'un seul trait, plus appuyé autour des épaules, du visage, des cuisses, plus mince à la taille, comme si au milieu de toute cette chair robuste, il fallait dans la courbe des flancs la douceur des athlètes au repos, qui si souvent leur pare les hanches d'une grâce androgyne. Il a une tête romaine, les yeux bleus, les cheveux bruns. J'ai l'air plus doux, mais de nous deux, c'est moi la brute. Lui est calme. Ses cheveux soigneusement peignés retombent malgré lui en longues mèches brunes sur ses tempes et son front. J'aime le provoquer jusqu'aux larmes, par une indifférence dont je joue en maître, et l'instant d'après, je fais tout pour qu'il oublie une conduite qu'il me pardonne toujours pour la dernière fois. Je me venge ainsi de mon amour, car je déteste celui que j'aime, me sentant l'esclave et le maître à la fois, et par là doublement livré aux inconstances d'un pouvoir et d'une soumission fragile. J'aime Pierre plus qu'on ne pourra jamais l'aimer. J'ai beau être en révolte, céder à des impulsions de vandale, il arrive un moment où tout est vain contre l'amour. Donc je baisais la bouche de Pierre, il y avait d'abord le léger souffle de détente quand il ouvrait les lèvres, et bien plus tard, après les caresses mystérieuses des visages penchés l'un sur l'autre, le second souffle, plus lourd, de l'être revenu à lui qui respire pour retrouver sa liberté. 10 fois je recommençais, et sans qu'il fît un geste, je l'enlaçais et l'entraînais vers la rivière. À l'endroit où, pour la première fois, nous nous étions aimés. Je retrouvais sans le vouloir la même place. Nous nous couchâmes sur l'herbe et nous dormîmes l'un contre l'autre, si étroitement serrés que la moindre feuille n'aurait pu se glisser entre nous. Au réveil, nous étions chacun le désir. Je regardais avec tant d'attention le visage de Pierre que je fus effrayé aux approches de son plaisir par la douleur soudaine qu'on y lisait, à tel point qu'un instant je le crus mort, si ce n'était... C'est sous les cils entr'ouverts, la pupille brillante et le gémissement qui séparait ses lèvres. Puis, ensemble, nous perdîmes conscience. Car bien que je n'eusse cessé de le contempler, un voile noir emprisonna ma vue tout à coup, et je ne revis l'arbre qui nous abritait qu'un peu plus tard, sortir d'une brume éclatante et reprendre ses mouvements et ses couleurs. Pierre avait un nouveau visage, ses pommettes brillaient, l'amour avait gonflé ses lèvres, il avait l'air insolent de ceux qui ont joui.
Moi, je trouve ça très bien écrit.
Bah, c'est très bien écrit, effectivement. Et
je sais pas qui c'est,
mais... c'est d'autant plus surprenant que c'est écrit par un gamin de 17 ans.
C'est vrai ?
Ouais. Et c'est un roman qui est sorti dans les années 50 aussi, Paola. Mm-hmm. 1955, précisément. L'auteur, c'est Éric Jourdan. Et c'est un bouquin qui est resté introuvable pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été édité... en 55, censuré tout de suite, et il est réapparu en France, en tous les cas, en 85, simplement.
Et il s'appelle comment ?
L'auteur ?
Oui, non, le livre.
Ah, le livre Les Mauvais Anges.
Les Mauvais Anges, ouais. J'adore cette description, ouais. Il était fait d'un seul trait, tout ça, c'est, ouais. c'est très beau.
C'est une langue d'une beauté, d'une pureté incroyable, quoi, avec une précision qui est étonnante, et d'autant plus étonnante que c'est écrit par quelqu'un qui a 17 ans, quoi.
Et il a écrit d'autres choses derrière ?
Il a écrit d'autres choses, ouais, d'autres choses. Enfin, c'est quand même considéré comme son chef-d'œuvre. Mais il y a d'autres choses ouais, qui sont à lire. Mais bon, dans un premier temps, moi, je vous conseille vraiment ce bouquin qui est... c'est l'histoire de deux jeunes gens, cousins, qui vivent une passion dévorante qui les conduira à la mort. Et bon, comme c'est évoqué dans l'extrait que j'ai lu, c'est vraiment une passion destructrice, quoi. C'est l'amour passionné comme on peut le vivre à l'adolescence. Et moi, de ce que j'ai lu dans le genre, c'est le truc le plus puissant à mon sens.
Et t'as trouvé ça comment ?
Alors, j'ai trouvé ça comment ? En fait, on me l'a offert. C'était dans les années 86-87, donc j'avais une vingtaine d'années. Et ça a été une sorte de révélation, quoi.
Et on peut savoir qui t'a offert ça ?
Un garçon qui était épris de moi et devant lequel j'étais terrorisé. Donc, autant dire que le bouquin m'a pas aidé, quoi.
Bon, c'est un beau texte, ça.
Ouais, c'est un texte très, très, très beau. Éric Jourdan, donc, Les Mauvais Anges.
Mais la prochaine fois, nous raconte pas la fin.
Ah, ben si, c'est
non,
pas
mais
grave.
Oui, c'est, non, oui.
Bah, c'est pour illustrer le fait que dans les années... Fin. Non, c'est pas la fin, ça, puisque ça se termine bien. Justement, c'est ça qui est bien. Non, il n'a pas lu la fin, puisque il nous a juste dit que ça se terminait mal. Mais ça confirme l'histoire d'Ali Smith.
Voilà. Ariane ?
Oui, c'est moi.
Allez, à
moi,
toi, on
t'écoute.
Moi,
je vous emmène dans le futur. Je vous emmène...
Laisse-nous découvrir.
D'accord, je ne sais pas si vous allez comprendre sans que je vous explique. Je croyais que vous me convoquiez pour m'avertir de ma mutation. Vous faire quitter cette planète ? Non, 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 dit Tong avec étonnement et gentillesse. On n'aurait pas dû m'envoyer ici. Pourquoi dire une chose pareille ? J'ai étudié la linguistique et la littérature. Sur Aka, il n'y a désormais qu'une seule langue et plus de littérature. Je voulais être historienne. Comment faire sur un monde qui a détruit sa propre histoire ? Ce n'est pas facile, dit Tong avec émotion, avant de se lever pour vérifier l'archiveur. Répondez-moi, Suti, s'il vous plaît. L'homophobie institutionnalisée vous pose-t-elle un grave problème ? J'ai grandi avec. Sous les unistes ? Pas seulement. Je vois. Tong marqua une pause. Sans se rasseoir, il reprit la parole d'une voix unie en la regardant alors qu'elle gardait les yeux baissés. Vous avez vécu lors d'une période de graves troubles religieux. De plus, je vois la Terre comme un monde dont les religions ont façonné l'histoire. Vous êtes donc, selon moi, la mieux qualifiée d'entre nous pour enquêter sur la religion de ce monde-ci, à condition qu'il en subsiste des vestiges. Vos collègues n'ont aucune expérience dans ce domaine, ou ils n'ont pas assez de distance à cet égard. Une nouvelle pause, elle ne répondit pas. Votre passé, reprit-il, risque de vous influencer à tel point que toute distanciation vous sera difficile. Avoir subi toute sa vie un régime théocratique répressif et l'agitation et la violence des dernières années de l'unisme. Une fois de plus, il s'interrompit. Elle devait répondre à présent. Elle dit avec froideur. J'estime que ma formation me permettra d'observer les autres cultures avec le moins de préjugés possible.
Alors ça, c'est alors, une curiosité.
Alors
ça,
c'est une curiosité. Hein.
Qu'est-ce
alors,
que c'est que ce machin-là ?
Rapidement, qu'est-ce que c'est ?
Ouais, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps.
Suti est observatrice envoyée par une institution qui s'appelle l'Écumène sur une planète qui s'appelle Aka. C'est un livre qui est issu d'un cycle où on parle beaucoup de l'écumène, mais chaque livre est complètement indépendant les uns des autres et à chaque fois on découvre des espaces sociaux complètement différents qui sont chacun en cohérence et qui fonctionnent selon différents ressorts, que ce soit sociaux, politiques ou technologiques.
Et c'est de qui et ça s'appelle comment ?
Ah, vous pouvez deviner.
Mais non.
Non, mais on n'a plus le temps de
deviner.
C'est
Ursula Le Guin.
Ah !
La fameuse.
Voilà, donc là c'était le Didaka.
À ne pas confondre avec Ursula Andress.
Désespoir.
Allez, on est obligé de se quitter.
Fiction,
bah ouais, c'est de la science-fiction, ouais.
Bon.
Ouais, ouais.
Mais
avec
c'est
des
de
mondes.
La bonne.
Ah ouais. Et ben, il nous reste juste le temps de dire.
Au revoir!